I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois, en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est comme d'habitude Thibaut qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour parler d'une année de cinéma en particulier avec un invité. Mais avant de démarrer l'émission, une annonce, Année Lumière a désormais son Tipeee. Donc si vous aimez l'émission et que vous voulez la soutenir, même modestement, pour 2, 3 ou 5 euros, vous pouvez le faire sur tipeee.com/Année Lumière. Ce mois-ci, mon invité est scénariste et réalisateur. Vous avez pu voir en salle son film « À Miami » avec William Lebgill, Margot Bansillon et Jonathan Cohen, ou encore « Le Brio » avec Camilla Jordana et Daniel Auteuil, qu'il a scénarisé. Il est également à l'écriture de la série « Jeunes et Gauleries », bientôt diffusée sur OCS, et sur 1000 autres projets excitants à la fois. Lui, c'est Victor Saint-Macary. Salut Victor.
Bonjour.
Bonjour, comment ça va?
Ça va bien, un peu stressé.
Bon, il faut
par
pas,
l'ampleur de la tâche.
Il faut pas, on va s'amuser à parler cinéma ensemble pendant une heure, ça va être trop bien. En tout cas, je suis très heureux de t'avoir dans l'émission.
Et moi, je suis très content d'être là.
Pareillement. Alors, Gainsbourg et Birkin chantaient qu'elle était érotique, mais l'année dont on va parler aujourd'hui est sans aucun doute bien plus que ça, électrique, chaotique, politique, historique surtout. Installée à la fin d'une décennie pleine d'utopie, cette année sera pourtant celle d'un réveil brutal. Des mondes et des générations s'affrontent et le grand écran devient alors la toile sur laquelle jaillit toutes ces révolutions. Au programme, Easy Rider, la mort de Sharon Tate et le réveil sanglant d'Hollywood, le Z de Costa Gavras ou quand le cinéma devient un contre-pouvoir, et l'enfance, vue par Maurice Pialat et Ken Loach. Bref, aujourd'hui, on parle de l'année 1969.
Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îlots.
Que je t'aime de Johnny Hallyday, d'un jeune Johnny de 26 ans. On écoutait ça en 1969. Alors les auditeurs commencent à le savoir un peu maintenant. C'est les invités qui choisissent l'année dont on parle à chaque émission. Et pourquoi 69? Pourquoi est-ce que tu as choisi cette année-là et cette période-là, Victor?
Eh bien, c'est fait un peu par hasard. En fait, j'avais envie de parler du premier film de Maurice Pialat.
D'accord, donc on va
et
parler.
Et j'ai vu que c'était 69. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même une année historiquement, après 68, etc., hyper intéressante. Et en creusant, Nouvelle Hollywood, tout un tas de films, Z de Gavras, je me suis rendu compte que l'année était très dense. Donc ça me paraissait être une super année. Et puis oui, et la chanson de Gainsbourg, cette 9 années érotiques. Moi ça me plaît bien, le sexe, la drogue, tout ça, c'est des choses que c'est des hobbies, on peut dire que ce sont des hobbies.
on va en parler. Alors 69, c'est l'année où l'homme, Neil Armstrong, pose pour la toute première fois le pied sur la Lune, le 21 juillet. La même année, Georges Pompidou est élu président français, prenant la suite du général de Gaulle. Le fameux festival de Woodstock réunit 500 000 spectateurs sur 4 jours. Et Muammar Kadhafi mène un coup d'État en Libye qu'il installera à la tête du pays jusqu'à sa mort en 2011. 69, c'est aussi l'année du lancement de l'ARPANET, l'un des ancêtres d'Internet, celle du tout premier épisode de la série animée Scooby-Doo et de la toute dernière représentation publique des Beatles sur un toit londonien. Mais 1969, c'est aussi et surtout du cinéma. Et cette année-là, Sam Peckinpah fait exploser l'écran avec sa Horde sauvage. Fellini fait son Satyricon. Georges Lazenby est le nouveau James Bond dans Au service secret de sa majesté. Et en France, il y en avait pour tous les goûts. On pouvait aller voir Bourville et Belmondo dans Le cerveau, Gabin et Delon dans Le clan des Siciliens ou encore Louis Funès dans Hibernatus. Aux USA, les esprits libres du nouvel Hollywood squattent alors les écrans. On va voir Easy Rider, Macadam Cowboy ou le duo Newman et Redford dans Butch Cassidy et Le Kid. Mais ce cinéma de la contre-culture, libre et insouciant, va sortir de son rêve en plein cauchemar et recouvert de sang, celui notamment de Sharon Tate, tragiquement tuée par la secte de Charles Manson. On est parti pour notre premier thème.
All the leaves around. And the sky is gray. I went for a walk.
Ah, cette musique. Alors, elle n'est pas de 69, cette musique, effectivement, mais elle apparaît dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. En 69, on se retrouve 2 ans après Bonnie and Clyde, qui a été le film fondateur du mouvement du Nouvel Hollywood. Alors, le Nouvel Hollywood, avant de plonger ses dents dedans, on va expliquer un peu, on va mettre un peu de contexte. C'est un mouvement de cinéma américain, c'est une modernisation du système de prod avec des nouveaux auteurs, etc., etc., et qui s'affranchit, on va dire, du vieux système des studios. Et qui va proposer, avec des nouveaux films et ses nouveaux auteurs, eh ben, des films différents. On va sortir des happy end, on va sortir des films un peu trop familiaux, et on va proposer des films qui s'inspirent plus de la nouvelle vague ou du néo-réalisme italien, et du coup surtout aussi des films politiques. Le cinéma du coup va redevenir plus qu'une industrie, va devenir aussi un art, et va gagner évidemment en intérêt à offrir des films majeurs. Cette année 69 aux USA, on a plein de films, on a La Horde Sauvage, on en a parlé, Macadam Cowboy, Butch Cassidy et le Kid, Easy Rider, plein de films comme ça. Pour rentrer dans ce thème, à quoi ressemble le cinéma US en 69?
Eh ben, en fait, au box-office, ça va très mal. C'est-à-dire que la fin des années 60, c'est des années noires pour le box-office américain. C'est-à-dire que 69, 70, 71, je crois que c'est vraiment 3 années terribles. Les gens n'ont plus envie de voir les divertissements familiaux, c'est complètement déconnecté de l'arrêté de la société où ils connaissent la guerre du Vietnam, les mouvements contestataires politiques, les Black Panthers, enfin des mouvements un peu radicaux. Et donc du coup les gens désertent vraiment les salles de cinéma et donc les studios ne savent pas quoi faire. Et là il y a des jeunes auteurs, des jeunes réalisateurs qui arrivent et qui disent bah nous pour 400 000 dollars on te fait un film et voilà.
Voilà. Ouais.
Et comme ils sont désespérés les mecs des studios, ils disent allez banco. Et donc ils laissent la porte ouverte à toute une nouvelle génération. Le pouvoir va être pris par les réalisateurs. Et donc ça va créer toute une nouvelle génération de Coppola, de George Lucas, de Steven Spielberg.
Qui vont devenir des
Scorsese.
Auteurs à part entière, voilà. et qui vont se présenter comme des auteurs, ouais. Alors qu'avant les réalisateurs c'était des techniciens plus.
Exactement.
Que tout. Et là il y a vraiment cette vague d'auteurs qui va arriver, ben, tu l'as dit, Coppola, ouais. Lucas... et d'autres qui proposent du coup un cinéma qui est différent et qui est du coup plus violent, avec plus de sexe, qui est plus rude dans sa représentation de la réalité, dans la représentation de la société, et qui nous montre peut-être le monde ou la vie telle qu'elle est. Et,
ouais, c'est exactement
et
ça.
Les gens retournent au cinéma et c'est vrai que les films qui sont au top du box-office cette année-là, ben c'est Butch Cassidy et le Kid, c'est Macadam Cowboy, ouais. C'est Easy Rider, on va en parler. Donc c'est des films qui sont pas anarchiques, mais un peu cyniques, un peu...
chaotique,
un peu chaotique, hein, qui nous montre voilà, des figures marginales, ouais. Qui sont des héros. Les héros sont plus les bons pères de famille et les représentants de la loi ou les institutions, c'est des marginaux.
Exactement.
Le public veut ça. Donc,
ils ont envie de ça, et ils ont envie de se voir à l'écran en fait. Ils en ont marre des représentations de bons pères de famille, ouais, de Gary Grant et tout ça. Enfin, ils ont envie de... Et effectivement, Bonnie and Clyde annonce ça, c'est-à-dire que c'est des anti-héros, c'est des gens qui tuent, c'est des gens qui sont
volent,
qui volent, et puis c'est une fin extrêmement dramatique, alors qu'avant c'était la dictature du happy end. Et là effectivement c'est un cinéma qui s'intéresse plus aux personnages qu'à l'intrigue aussi, c'est-à-dire que Easy Rider ou Macadam Cowboy, on est vraiment dans des films de personnages et c'est ça qui intéresse les gens, c'est de voir des gens et traités de manière naturaliste, c'est-à-dire qu'on va vers un cinéma beaucoup plus naturaliste, réaliste, presque documentaire en fait.
Oui, vraiment, avec du coup les moyens de production qui sont plus légers.
Ouais, en fait, c'est
les caméras tournées un peu à la va-vite comme ça, vraiment dans la logique de la nouvelle vague, etc.
Ouais.
Donc il y a vraiment une inspiration européenne de
vachement.
Nouvelle Hollywood. Ouais,
mais tu sais, Bonnie and Clyde, je crois que tu as fait une émission dessus. Bonnie and Clyde était proposé à Truffaut et puis à Godard, donc c'est assez drôle. Ils sont très influencés, mais effectivement, par la nouvelle vague.
Exactement.
Et ce traitement des histoires.
Bah, d'ailleurs, Midnight Cowboy, donc Macadam Cowboy, était classé X à sa sortie.
Enfin, il a eu des Oscars et tout ça.
Il a eu des Oscars, il a Oscar du meilleur film et il a été l'un des premiers des films les plus brillants au box-office américain cette année-là, alors qu'il est classé X.
Ouais,
à
c'est dingue. Pas pour son propos sur l'homosexualité,
bien sûr,
et sur la prostitution masculine, etc. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'Easy Rider et Macadam Cowboy partagent ce truc de ils sont vus comme des homosexuels. Je pense que Macadam Cowboy répond quelque part à Easy Rider.
Ouais.
Easy Rider, c'est vraiment pour moi le nouveau western, c'est-à-dire que la moto remplace le cheval. Et c'est ces citadins qui ont cette sorte de désir, cette utopie de prendre une parcelle de terre, de la faire cultiver, de quitter les villes, etc. Alors que Macadam Cowboy, c'est l'exact inverse. C'est que c'est le cowboy qui, lui, n'a plus de boulot, qui fait la plonge, qui n'a plus de cheval. Enfin, c'est la fin du western, c'est la fin de l'âge d'or du western, en tout cas. Et qui décide d'aller en ville pour gagner sa vie. Qui n'était intéressé que par ça, d'ailleurs, que par l'argent. Sa seule motivation à John Voight dans Macadam Cowboy, c'est l'argent.
Donc, t'as vraiment deux films qui discutent entre eux.
Ouais, j'ai l'impression.
C'est vraiment intéressant comme t'en parles, effectivement. C'est deux films qui discutent entre eux et qui racontent peut-être une transition, effectivement, entre deux mondes. Ce côté western qui disparaît petit à petit. Et ce côté très urbain qui arrive de plus en plus dans le cinéma. Et ces deux mondes qui discutent. Effectivement, Easy Rider, on va en parler. On va parler aussi de ce film. Pour vous donner une idée, c'est un film qui a coûté voilà, $500,000, ben vraiment rien du tout, et qui a rapporté dans le monde plus de $60 millions. Donc, c'est un film qui est présenté, avant d'être présenté au public américain, à Cannes, où il remporte le prix de la première œuvre au Festival de Cannes. Donc c'est un film, encore une fois, faut voir aussi comment a été fabriqué ce film-là. Il a été fabriqué alors que Dennis Hopper, réalisé donc par Dennis Hopper, avec Peter Fonda, Jack Nicholson. Il a été réalisé par Dennis Hopper, qui était sans doute en permanence sous cocaïne, ouais, ou drogué et dans un et état furieux, second furieux. Et furieux. Et du coup, le film s'est fait, mais dans des conditions un peu ubuesques, où le tournage a été interminable, le montage a été interminable, ouais, il y a eu 27 versions. Le film sort finalement, c'est un carton critique et public. Et il devient, ce film-là, Easy Rider, une sorte de symbole de cette contre-culture, de cette liberté, de cette fin des années 60 avec cette ode aux drogues, au sexe, etc., etc. Et on en a parlé, c'est vraiment une mise en avant, Easy Rider, de ces nouveaux héros immoraux, un peu salauds, anti-héros et du coup, effectivement, marginaux.
Ouais.
Et il y a cette romantisation de la marginalité, de la contre-culture, opposée à ce que j'appelle la famille atomique des années 50, c'est-à-dire la maman, le papa, la fille, le garçon et le bébé. Quoi. Tu vois, il y a vraiment ce côté... voilà, il y a un autre chemin, ouais, est possible, et libre et un peu insouciant véritablement. Ouais, ouais. Ouais. Pourtant, en 69, il va arriver quelque chose qui va couper court à cette idéologie, ou en tout cas lui faire très très mal, et réveiller un peu tout le monde qui était un peu bercé peut-être dans cette utopie-là américaine, puisque dans la nuit du 8 au 9 août 1969, Sharon Tate, femme à l'époque du réalisateur Roman Polanski, est assassinée et massacrée avec des amis par des membres de la famille Manson, hein, donc Charles Manson. Et donc ces membres de la famille Manson vont massacrer Sharon Tate, qui était enceinte de 8 mois et qui va être tuée de plusieurs coups de couteau, et 4 autres personnes, Jesse Bring, Abigail Folger, Wojtek Frykowski et Steven Parent, au 10 050 Cielo Drive, c'est-à-dire chez elles, là où ils habitent, dans les montagnes d'Hollywood, qui était le lieu à l'époque, et qui est toujours le lieu où habitent les stars véritablement, qui est normalement un îlot de sûreté et de sécurité, oui, qui est un petit peu en dehors du monde. Je vais vous citer un extrait de l'ouvrage Le Nouvel Hollywood de Peter Biskin, qui en parle très très bien. Quand les gens se sont réveillés effectivement le 9 août et qu'ils ont appris la mort de Sharon Tate, quelle était la réaction? Il écrit « Une atmosphère de terreur et de paranoïa se répandit sur la ville. » Tout le monde à Hollywood connaissait les victimes, chacun y allait de sa petite hystérie, on entendait ça et là des « j'ai failli me faire tuer » ou « je devais en être », comme si ce massacre avait réveillé à Hollywood une culpabilité enfouie et que les trois quarts des gens du métier avaient inconsciemment souhaité en être. On n'en était plus au stade de l'assassinat par l'ennemi, comme Bonnie and Clyde, la Horde Sauvage et Easy Rider l'avaient fantasmé. Le scénario était bien plus effrayant encore, c'était des hippies, des radicaux, l'essence des années 60 qui étaient passés à l'acte. Donc Piskin dirait littéralement « les gens que vous avez adorés sur l'écran, ouais, de cinéma, c'est eux qui ont tué Sharon Tate, et c'est eux qui ont du coup mis fin, ouais, entre guillemets, à cette période dorée. Alors, le meurtre de Sharon Tate marque-t-il la fin d'une époque, selon toi?
Pour revenir sur Easy Rider, ce qui est intéressant, c'est que c'est des hippies. C'est, ouais, quand même deux hippies. Bien et sûr. Donc le cinéma s'est emparé de cette figure et fait tuer ces hippies par des rednecks, les responsables de la guerre du Vietnam, quelque
bien
part.
Sûr, ouais.
Et donc Hollywood se dit bon bah voilà, on a fait un peu le boulot, donc on est sympa avec les hippies, mais les hippies se retournent contre Hollywood, donc ça marque aussi tout de suite effectivement j'ai l'impression la fin de c'est une grosse gueule de bois, j'ai l'impression,
la
pour
fin
Hollywood.
De l'idéologie,
ouais, et de dire on est copains, on
un peu fantasmé, on
les comprend,
genre,
ouais,
voilà,
on Hollywood est... comprend les hippies, en fait non, il y a la scission, elle est immédiate. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans Easy Rider, il y a une phrase de Peter Fonda qui dit we blew it, donc il dit on a complètement foiré. Et j'ai l'impression que le meurtre de Sharon Tate est une validation de ce dialogue de Fonda qui dit on a tout foutu en l'air, en fait.
Ouais.
Ce nouvel Hollywood s'arrête assez vite, finalement, cette liberté absolue. Mm-hmm. Très vite, on va revenir vers quelque chose de plus classique. D'ailleurs, dans le cinéma Coppola avec Le Parrain, on vient vers un formalisme.
Oui, les héros vont sortir de ces... Ouais. Ne vont plus être forcément ces marginaux, mais dans les débuts des années 70, on va revenir vers le héros qui est de nouveau une figure de l'ordre, un policier. Alors peut-être effectivement plus un policier, peut-être un peu plus immoral, etc.
Bah, comme l'inspecteur French Connection, voilà, ou l'inspecteur Harry.
Mais c'est un policier.
Chien de paille.
Alors qu'avant, c'était pas un policier. Quoi. Voilà. Il y a vraiment ce côté conservateur qui revient
c'est
un
ça.
Peu plus.
Il y a un conservatisme qui revient assez vite.
Ouais, donc c'est la fin d'une la fin
et puis
de
c'est la cocaïne qui remplace l'herbe, enfin c'est vraiment la fin de la fête.
Il y a vraiment selon toi un traumatisme dans le cinéma américain à ce moment-là, le meurtre de Sharon Tate, il y a vraiment un avant et un après. Il y a un certain réalisateur qui a sorti un film récemment et on va en parler juste après, ouais, qui pour lui son avis c'est vraiment il y a un avant et un après, ouais, et que la mort de Sharon Tate, le meurtre de Sharon Tate marque un traumatisme dans l'imaginaire américain.
Une prise de conscience, j'ai
l'impression. Une prise de conscience et va marquer un switch dans le cinéma et Hollywood, véritablement.
Ouais,
et
puis vraiment, je crois que les gens du cinéma à Hollywood avaient très peur. Hein,
ouais, bien sûr.
Une sorte de liste qui circulait. Barbara Streisand avait demandé à son agent si elle risquait quelque chose. L'agent avait répondu gentiment, sous forme de blague, il ne tue que les seconds rôles. Mais je crois que ouais, Hollywood est très traumatisé. D'ailleurs, des boîtes comme telles qui ont produit Easy Rider et tout ça, où ça fumait beaucoup de joints, où on accueillait beaucoup de gens, tout ça s'arrête un peu.
Du coup, c'est vrai que ce nouvel Hollywood qui a démarré, on va dire, un peu en 67, ouais, avec Bonnie and Clyde, bah, finalement, au bout de deux ans déjà, il y a un coup d'arrêt. Alors, bien sûr, il va perdurer
à travers
des personnes, à l'HB, etc. Mais du coup, il y a déjà un coup d'arrêt qui est mis à ce moment-là, ouais, véritablement. Et un coup d'arrêt qui a été mis en image par un réalisateur qui est Quentin Tarantino, qui a fait un film littéralement sur l'année dont on est en train de parler, et sur l'événement dont on est en train de parler. Puisque Quentin Tarantino a sorti en 2019 Once Upon a Time in Hollywood, qui parle justement du meurtre de Sharon Tate et de ce moment clé dans l'histoire hollywoodienne. C'est bien d'en parler parce que moi, je sais qu'Once Upon a Time Hollywood, toi, c'est un film que t'as adoré.
Moi, j'ai adoré, ouais.
Qui est un de tes films préférés, on va dire, de l'année où il est sorti, ouais, en 2019.
Ouais, 50 ans après.
Voilà, 50 ans après. J'ai eu la chance de le voir à Cannes dans des conditions qui étaient plutôt sympathiques.
Ah, les salles de cinéma, moi, j'étais au Max Linder. Donc, tu vois,
voilà, et du coup, après, tu vas le revoir. C'était un bonheur. Et c'est vrai qu'on a l'habitude, quand on regarde ce film-là, de se dire, OK, on se rend compte qu'on voit un film qui est important. Ouais. Au-delà du fait que c'est un Tarantino et au-delà du fait qu'il raconte quelque chose, déjà en termes de Tarantino, c'est-à-dire que c'est pas un Tarantino comme les autres.
Non, pas du tout.
Il est très mélancolique, il a cet esprit un peu, on dirait, un film d'enfant triste, tu vois.
J'ai vraiment l'impression que c'est son regard d'enfant, ouais. Parce que je crois qu'il avait raconté que d'ailleurs les musiques que Brad Pitt écoute dans sa voiture, c'est celles qu'il écoutait avec sa mère en allant au cinéma. Donc c'est un film extrêmement nostalgique, je suis d'accord.
Ouais. T'as ce côté
mélancolique.
T'as ce côté, il veut sauver le cinéma qu'il a fait grandir ou dans lequel il a vécu. Et du coup, il réinvente l'histoire un peu comme il avait fait dans Inglourious Basterds.
Sauf que là, c'est réussi.
Et là, du coup, voilà,
c'est plus réussi, en tout cas, selon moi.
Il change l'histoire à sa façon, et c'est là aussi la force du cinéma.
Moi, j'ai trouvé que c'était un film formidable sur, oui, effectivement, le cinéma. C'est-à-dire que cette thématique de le cinéma peut réinventer la réalité, et le cinéma est plus fort que la vie. Et je trouve que ça, chez Tarantino, c'était un peu raté, comme on l'a dit dans Inglourious, ouais, c'est-à-dire qu'il tuait Hitler dans une salle de cinéma. Là, c'est vraiment très beau, et puis en plus, c'est la figure de Brad Pitt. C'est ce technicien, c'est ce mec qui vit derrière un écran de drive-in, c'est un mec qui vit seul dans une roulotte de cinéma.
C'est Tarantino, finalement.
C'est un peu, ouais, cet enfant, ce mec solitaire qui faisait des VHS, en fait, tu vois, quand il était vendeur de... Quand il louait des cassettes VHS. Voilà, c'est un peu lui, effectivement. Et il y a cette figure de Caprio qui incarne l'avant. C'est-à-dire ce mec qui n'aime pas du tout dans l'époque, qui est complètement réactionnaire, il n'aime pas les Mexicains, il n'aime pas les hippies, il aime personne. Il est un peu, il a un côté Sunset Boulevard, tout seul dans sa piscine, là-haut, là, ouais, à répéter ses textes et à boire comme un trou. Et la fin du western aussi, comme on le faisait. Et tout ça, ouais. Ouais, et Tarantino nous fait un film, moi je le trouve extraordinaire. Les gens ont pu trouver ça un peu chronique, alors que moi je trouve que le film se densifie petit à petit, et comme toi m'a pris. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est incroyable, ce film, et qu'est-ce que ça raconte, et qu'est-ce que c'est fort.
Oui. C'est vrai qu'il y a vraiment une évolution de Tarantino qui est intéressante, parce que quand on dit Tarantino, on va avoir un Tarantino, on a dans l'idée, cette idée de film très tonitruant, avec beaucoup de références, et qui va nous prendre, ouais, par le col et va nous secouer. Et dans ses derniers films, Les 8 salopards, et là, Once Upon a Time in Hollywood, c'est un Tarantino un peu plus assagi, un peu plus qui regarde plus en arrière, mais avec ce côté, voilà, plus mélancolique, et je trouve plus intéressant. Moi, je suis très curieux de voir ce qu'il va nous sortir pour son, ouais, dernier film, apparemment, parce qu'il doit nous faire un dixième et dernier film, il l'a annoncé. Mais en tout cas, Once Upon a Time in Hollywood était un magnifique moment de cinéma et l'un des plus beaux films de 2019 et dernière année, finalement. Et du coup, effectivement, c'est un magnifique film, si vous ne l'avez pas vu, à voir, pour compléter ce qu'on vient de dire pendant ce premier thème sur cinéma américain qui, effectivement, s'est réveillé d'un réveil brutal alors qu'il était en plein rêve hippie, finalement.
Et une toute petite anecdote sur le Manson, c'est qu'il voulait que ce soit Dennis Hopper qui réalise son biopic.
Ouais. Ouais. Ah, et Dennis Hopper l'avait rencontré,
ouais, il avait rentré en prison,
ouais, pour voir Charles Manson et ouais, pour faire
et
son biopic.
Ça s'est jamais fait.
Oui, j'imagine. C'est vrai que Dennis Hopper était...
En plus, Dennis Hopper est furieux.
Voilà, était l'autre drogué, en face, était machin, mais du coup, je pense qu'au bout d'un moment, il n'était pas si drogué que ça. Il a quand même dit, bon, on va arrêter les conneries.
Peut-être, ouais.
Voilà, voilà qui conclut parfaitement ce premier thème sur le cinéma américain et Easy Rider et tous ces autres films formidables. On est toujours avec Victor Saint-Macary, on est toujours en train d'écouter Année Lumière et on s'en va sans plus tarder vers le second thème de notre émission sur 1969. D'écouter la musique originale du film Z de Costa Gavras, écrite et dirigée par Mikis Theodorakis. C'est un film avec Jean-Louis Trintignant, Yves Montand, Irène Papas, Jacques Perrin, et c'est l'adaptation du livre éponyme sur l'assassinat du député grec Grigoris Lambrakis, tué en mai 1963. Assassinat qui va mener, pour un peu de contexte, à l'instabilité politique de Grèce et au coup d'État 67 et la dictature des colonels qui durera jusqu'en 1974. Pour vous donner une idée, comme personne n'était né autour de cette table à l'époque, ce meurtre du député grec Lambrakis va avoir un impact mondial, européen, enfin grec bien sûr, européen bien sûr et mondial, aussi fort que l'assassinat de JFK en 63, et du coup va vraiment, comme on l'a dit, déstabiliser toute la Grèce et tout le pays et avoir des répercussions importantes politiquement sur le monde entier. Costa Gavras en fait un film, ce film Z, qui va avoir le prix du jury et l'interprétation masculine pour Jean-Louis Trintignant à Cannes en 1969, et va avoir l'Oscar du meilleur film étranger l'année suivante, va réunir plus de 4 millions de spectateurs dans les salles. Donc c'est un film politique qui parle d'un homme politique qui est mort il y a très peu de temps avant, donc 5 ans avant, et qui fait 4 millions de spectateurs, et qui a un Oscar, et qui a des prix à Cannes, et qui a du coup une reconnaissance et publique et critique. Pour vous donner une idée, à l'époque, la presse française disait que Z était peut-être le premier grand film politique français qui se présente en même temps comme une œuvre destinée à tous les publics. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question avec cette citation de te dire, mais est-ce que Z est le premier grand film politique en France ?
Je ne suis pas une encyclopédie, mais j'ai l'impression que ça marque quand même un tournant absolument fabuleux. C'est-à-dire qu'il s'empare d'une histoire vraie et en même temps il la traite de manière fictionnelle. Puis il mélange aussi le documentaire, c'est-à-dire la manière dont c'est filmé. Et il en fait du cinéma, enfin tout ça en fait un grand film effectivement politique, c'est-à-dire que c'est pas un documentaire, c'est pas un essai cinématographique sur un événement, c'est vraiment un film mais qui s'inspire de faits réels.
On a l'habitude de ces films politiques, mais à l'époque, il faut bien se souvenir qu'en 69, on sort de Charles de Gaulle, on sort du général de Gaulle, donc on est dans un mood où, en France où il y a beaucoup de choses qui sont réprimées dans le cinéma français.
On n'ose pas d'ailleurs.
Voilà, c'est-à-dire que évidemment. Là, on dit Z, le premier grand film politique français. Bien sûr, le cinéma est une forme de représentation. Bien sûr, le cinéma est une forme d'interprétation. Donc forcément, c'est politique. Forcément, tout est politique, bien sûr. Mais il faut bien vous dire qu'avant Z de Costa Gavras, tous les films sur la guerre d'Algérie, comme Le Petit Soldat de Godard, ou La Bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo, ou Le Vent des Aurès de Lagdar Amina, donc des films comme ça qui parlaient de la guerre d'Algérie qui s'était passée juste avant, ont été censurés, ont été censurés par le gouvernement français. Donc quand on faisait comme ça un film...
Même la question de Laurent Edman qui sera réalisée plus tard sera encore censurée.
Voilà, donc il faut bien dire
beaucoup
que,
de temps à...
voilà, quand on faisait des films politiques comme ça très frontaux qui accusaient véritablement des gens qui étaient encore au pouvoir à l'époque...
Mais là, il parle de la Grèce, donc ça va.
Voilà, donc là, voilà, il y a ce côté. Ben ça, ces films-là étaient censurés ou coupés, ou etc., etc. Pour vous donner une idée, c'est qu'on dit que Z, effectivement, de Costa Gavras accuse frontalement que le film commence littéralement par la phrase suivante: toute ressemblance avec des événements réels, des personnes mortes ou vivantes, n'est pas le fait du hasard, elle est volontaire. Et cette phrase, elle est signée par le réalisateur et le producteur, genre en disant, bonjour, vous allez rentrer dans un film où on va fumer des gens. on va rentrer dans l'art littéralement, des gens qui sont en
pouvoir. J'attaque ouvertement.
Voilà, exactement. Et c'est drôle parce que quand on s'intéresse à Z de Costa Gavras, donc moi je ne l'avais pas vu, quand tu regardes Z, tu te dis, mais c'est un film sur quoi ? Z, c'est
mais d'ailleurs, que Gavras, quand on lui file le bouquin, je crois que c'est son frère qui lui file le bouquin, il se dit, c'est quoi ce titre à la con hein?
Oui, juste un Z, etc.
Ouais,
alors,
c'est complètement débile ce titre.
Voilà, exactement. Alors Z, c'est la lettre Zeta en grec, et qui veut dire « il est vivant », entre guillemets.
Il
est vivant. Et cette lettre Z est devenue, après la mort de Lambrakis, un symbole en Grèce. Et du coup,
il l'a tagué sur les murs.
Voilà, les gens taguaient cette lettre Z pour dire « Lambrakis est peut-être mort, mais il est vivant dans l'esprit de chacun ». Donc c'est la révolte. Donc c'était un symbole effectivement politique. Et pour vous donner une idée à quel point Z, le film de Costa Gavras, était, a eu un impact impressionnant et était, a été compliqué à faire, c'est que la musique de Mikis Theodorakis, que vous avez entendu au début du thème, le compositeur a dû la composer alors qu'il était assigné à résidence en Grèce, donc il était bloqué chez lui, il a dû la composer, et elle a dû être sortie, enfin cachée sous le manteau, pour être sortie du pays, pour être utilisée dans le film.
Ah ouais,
c'est-à-dire
non,
que
c'est
du coup, pour le mec, pour pouvoir participer et donner sa musique au film, il a dû, mine de rien, il a fallu que la musique soit cachée des autorités.
Mais l'auteur du roman aussi était en fuite à Rome, je crois. Gavras le rencontre à Rome.
Donc il faut se dire voilà, que la Grèce, dans les fins des années 60, c'est la révolte, enfin c'est la politique.
C'est la Corée du Nord. Hein.
Voilà, c'est la Corée du Nord, enfin c'est vraiment, les colonels sont venus au pouvoir, donc c'est vraiment pas facile. Et c'est drôle parce que Yves Montand, donc, qui joue le rôle de Grigory Slomarakis dans le film, à un moment donné a dû aller faire de la promotion aux États-Unis par exemple pour faire la promotion du film parce qu'il a eu quand même un Oscar, on le rappelle, hein, et les États-Unis n'ont pas voulu lui donner un visa parce que du coup ils jugeaient le film effectivement trop violent, trop politique, etc. Et du coup il a dû attendre pour avoir, il a eu finalement son visa, mais il voulait bloquer Montand pour pas qu'il arrive notamment pour participer à l'émission de Johnny Carson.
Et c'est drôle parce qu'il fasse de la propagande, quoi.
Exactement. Et il y a même cette citation de J. Edgar Hoover, donc, qui était le président du FBI à l'époque, qui avait dit « Aucun Américain vraiment patriote ne paierait pour voir un tel film ». C'est-à-dire que même J. Edgar Hoover a dit « Z est un film qu'aucun patriote ou aucun Américain ne devrait voir ».
C'est dingue.
Et à quel point, pour vous montrer à quel point le film dérangeait, le film gênait.
Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est United Artists qui, au début, finance le scénario,
exactement,
l'adaptation.
Ouais.
Et ils lisent le truc et ils disent « Ah non, c'est impossible, c'est impossible qu'on fasse ça ». Et donc c'est Jacques Perrin et Schlumberger qui produisent.
Mais c'est vrai que c'est un film qui est assez fou quand on le regarde. C'est-à-dire qu'on a cette phrase au début qui nous dit « En fait, tout ce que vous allez voir, c'est une attaque frontale, on cite les noms des gens
».
Le générique de fin, on a les acteurs, donc Yves Montand, Jacques Perrin, etc., etc., avec leur alter ego, les deux photos, l'acteur et la personne qu'il incarne dans la vraie vie. Donc littéralement, le doute n'est pas permis, c'est pas une adaptation, c'est littéralement une retranscription juste. Pour résumer, le député donc Lambrakis fait une manifestation pour la paix en Grèce,
anti-armement,
etc., etc., etc. Et lors d'une manifestation, il traverse une place, il est entouré par une foule agressive, hostile. Et des gens passent en camionnette.
Un triporteur,
il passe à côté de lui et il se fait frapper par, alors on ne sait pas, un objet contondant. Il s'écroule au sol et il mourra 3 jours plus tard. Et cette mort-là, qui est une mort du coup politique, parce qu'on découvrira plus tard que ces assassins.
C'est le procureur en fait qui va mener une enquête.
Voilà.
Qui normalement n'est pas un communiste, n'est pas un pacifiste, mais qui va faire son boulot. Et avec l'aide de journalistes, va découvrir.
Donc ce procureur incarné par Jean-Louis Trintignant. Comme tu dis, va effectivement faire son boulot.
Faire son boulot.
Et va dire, en fait, non, je vais juste faire une enquête. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était pas un accident, c'était un assassinat politique. C'était les généraux qui avaient commandité cet assassinat politique. Mais c'est vrai que c'est drôle de se dire qu'il n'y a pas si longtemps, la Grèce était une dictature.
Ouais. Après, ce qui est intéressant, c'est que Gavras en fait un film universel. C'est-à-dire qu'il dépasse le simple cadre grec. Mmh. Et c'est aussi par des raisons de production. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à tourner à Thessalonique. C'est-à-dire qu'il a tourné en Algérie. Et donc, ça fait une sorte de pays comme ça où il y a des Africains du Nord, des Français,
c'est un film
des Grecs. Ouais, enfin, c'est franco-algérien.
Il tourne
à Alger.
Voilà, l'Oscar du meilleur film est remis du coup à Z, qui est un film algérien, quoi, véritablement.
Ouais.
Il n'est jamais dit dans le film que c'est en Grèce.
Mais il y a des trucs de bière,
y a la musique.
Mais en même temps, on est au Maghreb, quoi.
Voilà, on est en Méditerranée, il y a la musique grecque.
Il y a des Français, tout est mélangé. Donc, ça fait une sorte de fausse société comme ça, de faux pays, un pays un peu imaginaire. Et qui permet en fait son côté universel. Et puis la matraque, dans le film, il n'y a pas de fusil, il n'y a jamais d'armes à feu, il n'y a que des matraques. Et ça rappelle aussi la répression de mai 68, j'ai l'impression, CRS, des gendarmes, à coups de matraque qui matraquaient la jeunesse, tu vois.
Absolument.
C'est cette jeunesse qui voulait du pacifisme, qui voulait le désarmement. Enfin. Donc du coup, ça parle un peu, je pense que ça parle à tout le monde.
Ouais.
Et c'est pour ça que le film cartonne et effectivement remporte
4 millions
un prix.
D'entrées, ouais. Imagine 4 millions d'entrées aujourd'hui pour un film.
Pour un film comme ça.
Les films qui font 4 millions d'entrées, c'est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et
Non, mais ce serait un téléfilm Arte aujourd'hui, exactement. Z. Tu vois, voilà. Ce serait impossible de le sortir au cinéma.
Exactement. Et les publics et allaient en salle pour voir ça et étaient concernés. Moi, j'en ai parlé à mes parents quand je leur ai dit je vais faire 69, on va parler de Z. Et mon père, il m'a dit à l'époque, moi, je l'ai vu plein de fois à la fac avec des amis, on était à fond. Donc, il y a vraiment cet esprit révolutionnaire.
Puis ça crée une injustice à la fin, tu vois, parce que effectivement, le vote démocratique doit l'emporter.
Ouais.
Mais finalement, les généraux vont prendre le pouvoir. Donc, il y a un truc très injuste. Et donc, on est encore dans le non-happy end.
Ouais, bien sûr.
La fin qui n'est pas heureuse du tout. Ouais.
Et d'ailleurs, le générique de fin de Z est intéressant parce qu'il fait une liste de tout ce qui est interdit en Grèce.
C'est dingue. Il y a des choses aberrantes d'ailleurs.
Et du coup, on regarde ça. Nous, on est en 2021. On regarde le film et on dit, mais il fait son générique de fin, c'est une liste de tout ce qui est interdit en Grèce en 1969. On a l'impression que c'est faux parce que nous, la Grèce, pour nous, c'est destination de vacances. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, la Grèce, c'était ça.
Non, la liste paraît folle.
Du coup, il y a vraiment cette. Z incarne ce cinéma qui dérange et qui du coup devient une sorte de contre-pouvoir. Il y a vraiment cette idée qu'avant le cinéma c'était un divertissement et Z met un peu les pieds dans le plat et gêne et dérange et il fait quand même 4 millions d'encrets. Donc il y a vraiment ce truc de peut-être que 69 est l'année où le cinéma est devenu un contre-pouvoir.
Peut-être un contre-pouvoir, oui. J'ai l'impression que tout d'un coup le cinéma va s'engouffrer dedans. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que la même année, L'Armée des Ombres sort.
L'Armée des Ombres, effectivement,
de Melville.
De Melville sort, qui du coup est un film.
Est un film plutôt gaulliste, qui en tout cas rend hommage à la résistance et donc quelque part à De Gaulle. C'est quand même un film qui est mal aimé au départ.
Moins dans son époque que Z. Et la même année, un autre film. Britannique cette fois, à la Palme d'Or à Cannes. Donc, souvenez-vous, Z a le prix de la meilleure interprétation masculine pour Jean-Yves Trintignant.
Le jury à l'unanimité.
Le prix du jury, bref. Et en plus, Cannes donne une Palme d'Or à un film qui est dans le même mood, dans le même esprit, qui s'appelle If, qui est un film de Lindsay Anderson avec Malcolm McDowell, le fameux Malcolm McDowell de Orange Mécanique de Kubrick. Et If, donc ça s'écrit If, trois petits points. Raconte la révolte violente de lycéens anglais contre la discipline et l'autorité de leur établissement scolaire. Donc effectivement, on va suivre des lycéens qui se révoltent un petit peu et c'est une révolte qui va prendre des proportions sans en dire trop, proportions phénoménales. Ouais. Mais du coup, c'est vraiment un film contre l'autorité institutionnelle. Donc encore une fois, contre l'autorité ancestrale.
Alors là, on est collé à l'actualité. Quoi. Ouais. C'est-à-dire, vraiment, c'est la révolte étudiante contre les institutions. Bon, après, on peut dire que ça finit vraiment très mal. C'est-à-dire qu'ils prennent des armes à feu. Il va très loin.
C'est vrai qu'il est très violent.
Il est violent au départ parce que ces pensionnaires anglais se font maltraiter moralement, physiquement par leurs professeurs. Je crois qu'il y a des fessées, des machins. Enfin, c'est assez dur. Et à la fin, cette violence crée de la violence. Et donc,
c'est vraiment une génération. Ben on l'a vu, même Easy Rider le dit. Hein, c'est vraiment une génération qui parle à une autre, une génération qui dit à la génération précédente, ouais. Ben en fait, va te faire foutre. Monde dans lequel tu vis ne m'intéresse pas. Et là, If de Lindsay Anderson est la même chose. C'est des jeunes qui disent aux adultes, ben en fait, votre éducation à la papa qui consiste à brimer, qui consiste à blesser, qui consiste à ridiculiser et à humilier. Nous, on la veut plus et on va se révolter. On va même faire une sorte de révolution.
Ah ouais.
Et c'est pas anodin que ça arrive en 69 et un an après 68 parce que cette colère-là, elle gronde depuis 20 ans.
La jeunesse en a marre.
Du coup, la génération, elle arrive, on va dire, à maturité et elle sort sur les écrans, elle jaillit, comme je le disais au début de l'émission, elle jaillit sur les écrans véritablement.
Ce qui est marrant, c'est que Malcolm McDowell, c'est-à-dire qu'il finit presque là où Orange Mécanique commence. C'est-à-dire que.
Oui.
Et l'institution dans Orange Mécanique essaiera. De le reconditionner, d'en refaire un honnête citoyen. Donc c'est marrant. Là aussi, les films, j'ai l'impression que se répondent quelque part.
C'est vrai que si on regarde If et Orange Mécanique à la suite, on a un peu l'impression que c'est le même film.
Dans une continuité.
D'ailleurs, Stanley Kubrick a vu If et a choisi Malcolm McDowell pour son film après avoir vu effectivement If. Ouais. Donc c'est pas anodin véritablement. Mais du coup, il y a au même moment, effectivement, deux pays différents. Donc la France, l'Algérie, l'Angleterre. Là, après, on a vu les États-Unis. Partout dans le monde entier, la révolte, les gens, les générations, cette nouvelle génération arrive sur les écrans et dit stop. Quoi.
Et d'ailleurs, c'est des réalisateurs qui sont de plein pied dans la réalité, donc qui sentaient ça à venir. Donc ils l'ont mis en image assez vite. Et c'est intéressant quand le cinéma prend le pouls de la société immédiatement. C'est vraiment parfois, c'est des radiographies immédiates de ce qui se passe.
Tu dirais que c'est une année de transition entre
un vieux monde et un nouveau monde, j'ai l'impression, parce qu'on va rentrer dans les années 70, ils vont être quand même plus progressiste. Ouais, il y a quand même un mouvement qui se met en place de progressiste, j'ai l'impression. Mm-hmm. Et que le cinéma est en train
bouge
de dire...
Quoi.
Faut se bouger, les gars, parce que là, ça va plus du tout. Ouais. On est sur un fossé générationnel énorme. On se comprend plus, on se parle plus, donc il faut...
Oui, c'est-à-dire que l'ennemi n'est plus forcément les nazis ou l'adversaire, c'est plus l'ennemi de la Seconde Guerre mondiale. Mais,
c'est dans notre société.
Mais le problème, il est sociétal, véritablement. Et c'est vrai qu'avoir un cinéma social comme ça... qui nous dit vraiment les yeux dans les yeux, il y a un souci. Moi, j'ai une question pour clore ce second thème. Peut-être une question qui va ouvrir un peu, une question peut-être un peu hors propos, mais on a parlé, on traite de 69, on a parlé effectivement des événements de mai 68, qui sont effectivement aussi des événements qui ont été couverts différemment que les autres auparavant. On avait à l'époque, on avait des petites caméras, donc ouais. Tout de suite, le rapport aux images changeait. Est-ce que mai 68 a changé notre rapport aux images ?
La révolte et la question de l'image, c'est aussi la question de la technologie. Aujourd'hui, ce qu'on voit avec les téléphones portables, comme un documentaire à un pays qui se tient sage, donc on a des moyens aujourd'hui de voir tout de suite ce qui se passe. Et j'ai l'impression que le téléphone portable est l'équivalent de la caméra légère de l'époque. Mmh. C'est-à-dire, grâce à la technologie, on voit les injustices.
Donc pour
elles
le
sont
coup,
plus criantes, elles sont plus visibles.
Donner des outils à tout le monde, donner des images à tout le monde, donner des points de vue à tout le monde, ça permet de changer de point de vue.
Voilà.
Et avant, on n'avait que le point de vue de l'État, on n'avait que le point de vue de ce qu'on voulait bien nous donner comme point de vue. Et dès que les gens ont eu accès, ont pu filmer leurs propres images, tout de suite, effectivement, ça a changé. Et je trouve formidable parce que tu cites effectivement Un pays qui se tient sage, le film de David Dufresne. Et David Dufresne, il avait cette citation justement en parlant justement de mai 68 et de la force des images. Sur les images de mai 68, il dit « La caméra a été placée du côté de la police. Les spectateurs recevaient les pavés, pas les coups de matraque. Aujourd'hui, le spectateur reçoit les deux. Il a la scène, le champ et le contre-champ. » Et c'est vrai que ça revient vraiment sur ce que tu dis toi sur aujourd'hui, dans les manifestations, on parle beaucoup effectivement de violences policières. Du coup, effectivement, le poids de l'image, l'importance de l'image, les téléphones portables, etc., etc., ça rejoint vraiment sur ce que tu dis.
Mais c'est qu'effectivement, aujourd'hui, avec un téléphone portable dans une manifestation, tout le monde d'ailleurs dégaine très vite et il y a des gens qui sont là pour ça. Hein.
C'est devenu un réflexe.
Ouais. De dégainer son téléphone pour filmer.
Voilà, le cinéma, les images, peut-être comme outil de révolte. Voilà, le cinéma peut-être est finalement un contre-pouvoir en cette année 69. Voilà qui conclut cette deuxième partie de notre émission sur 1969. Vous êtes toujours en train d'écouter Années Lumière. On est toujours avec notre invité Victor Saint-Macary. Et on va glisser sans plus tarder vers notre troisième et dernier thème de notre émission. Cette musique, c'est celle de Kes, film de Ken Loach, et qui va être, avec un autre film, au cœur de notre troisième thème, où on va parler de l'enfance, et notamment de l'enfance vue donc par Ken Loach et par Maurice Piala, qui sort en 69 L'enfance nue, un film sorti le 29 janvier en France. D'un côté, on a Kes, qui raconte l'histoire de Billy, qui est un petit garçon solitaire d'une ville minière du nord-est de l'Angleterre, qui déniche un jeune rapace et va entreprendre de le dresser, se liant d'amitié avec l'oiseau. Et de l'autre côté, on a l'enfance nue, qui est l'histoire de François, un enfant de l'assistance, traîné de famille en famille et qui trouve enfin une stabilité chez un vieux couple avant de causer un accident et d'être renvoyé en centre. Deux films sur l'enfance, donc sur l'enfant plus généralement, qui est un sujet que toi tu as choisi, Victor, dont tu voulais parler spécifiquement et qui d'ailleurs est le moteur principal du choix de cette année 69 dont on parle. Qu'est-ce qui t'a fait choisir
C'est mes deux films préférés de cette année-là.
J'allais te poser qu'est-ce qui t'a fait choisir ce film-là.
Kes et l'enfance nue, c'est vraiment deux films pour moi extraordinaires sur l'enfance. Après, c'est deux films qui se répondent parfaitement, j'ai l'impression. Y en a un qui est plus poétique que l'autre, il y en a un qui est plus généreux que l'autre. Mais j'adore vraiment ces deux films. Je trouve que c'est deux films en plus fondateurs. C'est le deuxième film de Loach et le premier de Piala.
Ouais. Et qu'est-ce qui te touche dans ces films-là ?
Déjà, la question de l'enfance, l'enfance qui comment on se construit. Après, c'est deux enfants qui sont mal adaptés. C'est ce qu'on appelle de la mauvaise graine. Puis c'est des enfants qui ont des familles un peu atomisées.
Familles décomposées.
Décomposées. Dans Kes, il est élevé seul par sa mère. Mmh. Et dans L'enfance nue, qui est le sujet du film, c'est que c'est un enfant qui va de famille d'accueil en famille d'accueil. De l'assistance publique. C'est comment, de cette merde, jaillit de l'amour, de la poésie, de la lumière. Et j'ai toujours assez touchant. De parler de ces bas-fonds, de quelque chose qui est assez dur, et d'en faire quelque chose de poétique et beau et très émouvant. Moi, c'est deux films qui m'émeuvent beaucoup.
C'est vrai qu'on a un cadre, le nord minier de l'Angleterre, avec des gens très pauvres, une campagne, une vie très dure. Et de l'autre côté, dans l'enfance nue, on a effectivement un enfant qui passe de famille en famille, dans l'adoption, dans l'assistance.
Et qui est aussi dans le nord de la France, et des bassins miniers.
Voilà, exactement. Et dans ces contextes extrêmement durs, extrêmement compliqués, on a ces enfants. Mm. On a ces îlots d'innocence et de pureté, véritablement.
C'est ça.
Et c'est dur. C'est dur de voir ces films et c'est dur de voir ces personnages-là s'en prendre tellement plein la face et être dans ces... Moi, je t'avoue que j'ai découvert l'enfance nue, comme tu as proposé effectivement le thème. Et l'enfance nue est particulier puisque l'enfance nue est la conclusion d'une enquête de Maurice Pialat.
Qui voulait faire un documentaire.
Qui voulait faire un documentaire sur l'assistance et comment l'État prenait en charge ses enfants qui étaient abandonnés ou qui étaient orphelins, etc., etc. Et au final, il a préféré préparer un film. Et du coup, ce film a cette ambiance, ce mood un petit peu docu-fiction où il y a des séquences où tu vois clairement que les gens ne sont pas des acteurs. Il y a des autres séquences effectivement où tout le monde sont des acteurs, mais il y a des séquences où il a l'assistance, il a juste posé une caméra et tu vois vraiment des gens qui discutent avec des enfants qui sont passés de main en main. Et dans Caisse de Ken Loach, c'est donc le deuxième film déjà de Ken Loach. Hein. Donc Ken Loach, on rappelle, c'est le réalisateur du Vent se lève, de Daniel Blake ou de London Freedom. Et on retrouve déjà ce regard sur la classe ouvrière anglaise et sur ce regard tendre et plein de compassion sur ce milieu particulier. La compréhension de ce milieu désœuvré, etc., etc. Donc on a déjà cette patte et peut-être qu'on, avec ce film-là, on est déjà témoin de la naissance du cinéma de Ken Loach, qui est donc un cinéaste aussi majeur, donc c'est aussi intéressant à regarder. Et c'est un film effectivement d'une poésie phénoménale.
Ouais.
Il y a ces séquences hors du film, hors du temps, où on voit donc Billy qui va entraîner son faucon qu'il a capturé et qui va du coup, qui l'a relié au bout d'une corde et qui se retrouve dans un champ au milieu de nulle part. À le faire voler, puis à le faire revenir vers sa main manger un bout de viande, et puis le refaire voler avec la musique que vous avez entendue au début du thème. C'est un film d'une poésie assez folle, pourtant dans un cadre effectivement pas évident.
C'était vraiment du Loach, du pur Loach, parce que c'est l'état de nature. En fait, dans cette nature et dans cet enfant, il est parfaitement adapté à ce décor naturel. On le voit se balader dans cette forêt luxuriante, c'est un écrin un peu bienveillant comme ça. Puis cet oiseau, il s'y intéresse, donc il se documente pour avoir fait de sa vie, il lit des bouquins. Enfin, donc toute sa. Toute son éducation se fait parce qu'il a une passion tout d'un coup pour quelque chose qui est naturel. Et l'ennemi, c'est le capitalisme, c'est la mine, c'est son frère qui est mineur.
C'est l'école qui lui dit pense ça, pense ci.
Et c'est l'argent, c'est trouver un métier. C'est...
T'as ce côté Loach est déjà en train de dire. Le travail mortifère.
Ouais,
quoi, tel
le
côté,
capitalisme nous tue.
Ouais, bien sûr.
Et tue nos interactions sociales, et tue ce qu'il y a de beau en nous.
Et tue le naturel, et tue cette envie de liberté, etc., etc. Bon, on revient peut-être aussi encore une fois à Easy Rider qui a cette envie de liberté cassée dans l'œuvre véritablement.
Le côté nature, ouais. Il y a un tout un truc sur le côté naturel et l'anticapitalisme en fait. Et ce qui est beau aussi, qui se retrouve dans Caisse et dans le Pialat, c'est l'épiphanie presque. Hein. C'est-à-dire qu'on voit dans Caisse, comme on vient de le dire, cet oiseau qui va créer chez lui une envie de lire des livres, de se renseigner. Et d'ailleurs, à un moment, il est interrogé par son professeur, lui qui est un très mauvais élève, qui est toujours dans la lune. Ouais. D'un coup, il raconte comment il dresse son oiseau. Et toute la classe le regarde et passionné. Et même le prof s'intéresse à lui. Et donc ça, c'est très beau. Et dans Pialat, il y a une scène. Il va au cinéma, François. Ouais. Et, on ne voit pas ce qu'il voit à l'écran, mais c'est un western. Rio Bravo, je crois. Ouais. Et il a un regard qui s'allume. Ouais. Et juste ça, et on comprend que voilà, dans cet enfant, quand même, il peut y avoir des passions. Et ben, je trouve ça très beau, moi, ces petites choses-là. Dans les 400 coups, c'était Balzac. Tout d'un coup, il disait Balzac. Et c'était le fameux Eureka, d'ailleurs, donc l'épiphanie.
Ouais, bien sûr. Et c'est drôle parce que là, tu parles effectivement des 400 coups. Là, on est 10 ans après les 400 coups.
Et ces films sont des vraies réponses, presque. Ce sont des réponses aux 400 coups. Pialat, par exemple, n'aimait pas du tout les 400 coups. Alors que L'Enfance Nue est produit par Truffaut, à qui il s'engueulera d'ailleurs sur le tournage.
Bien sûr, mais du coup, c'est marrant d'avoir effectivement 10 ans avant les 400 coups. En 69, on a que l'enfance nue, Caisse, dans des pays différents. Comment elle a évolué, cette image de l'enfance, en 10 ans?
Ce qui est marrant, c'est que les 400 coups, ça raconte aussi un peu un enfant qui va glisser doucement, qui va quitter un peu le système, et qui va se retrouver d'ailleurs en maison de correction. Mais c'est très doux, l'image déjà noir et blanc est très nostalgique, il y a des jolis plans, il y a de la musique.
Ouais.
Chez Pialat, il y a zéro musique. Zéro musique.
Ouais. Pialat, c'est Pialat. La réalité brute.
L'enfance nue, c'est... Voilà. On enlève vraiment tout, et c'est sec.
Ouais.
Et Truffaut fait des travelling, notamment sur le dernier plan là, sur la plage. Chez Pialat, il y a pas un effet, il y a pas d'effet cinématographique. Et chez Loach aussi, il y en a très peu. Donc c'est des gens qui vont encore une fois vers le côté plus documentaire. Alors que Truffaut était la France de Doisneau.
Plus dans l'effet de style, parfois voilà, cette espèce
un truc
de
un peu gentil,
poésie recherchée.
Ouais. Cinéma plus bourgeois en fait finalement.
Oui, c'est vrai. Donc du coup, il y a peut-être cette évolution effectivement de où on tire vers le réel et puis on essaye d'aller vers un plus vers la réalité.
Il y a une beauté formelle chez Truffaut et Pialat refuse la beauté formelle. Il dit que c'est ce qui est de mieux, c'est une scène ressentie, que si elle est, c'est un peu comme Cassavetes en fait. C'est des gens qui, s'il y a une perche dans le cadre ou si machin, si les acteurs sont bons, on garde. On s'en fout que ce soit beau, quoi.
Et c'est marrant parce que là, du coup, on parle effectivement d'un film français et d'un film britannique. Et au même moment, la même année, alors on ne va pas pouvoir effectivement en parler plus parce que j'ai malheureusement pas pu le voir parce qu'il est introuvable malheureusement. Mais il y a un film qui sort au Japon, réalisé par Nagisa Oshima, qui est un grand réalisateur japonais, qui s'appelle Le Petit Garçon, qui est un film basé sur une histoire vraie, qui a été un choc au Japon dans les années 60, qui raconte l'histoire d'une famille pauvre qui utilisait son jeune garçon pour simuler des accidents de voiture et escroquer de l'argent en fait.
C'est du Coréda avant
au conducteur fautif. Et c'est vrai que dans les années 60 au Japon, il y a une espèce de vague de familles pauvres qui du coup galèrent tellement que utilisent leurs jeunes enfants pour provoquer des accidents et du coup ces enfants-là se retrouvent des outils de encore une fois du capitalisme,
c'est ça,
encore
l'argent.
Une fois de tout ça. Et malheureusement j'ai pas pu voir le film, donc si vous l'avez vu auditeur, j'espère que vous l'avez apprécié, mais en tout cas c'est encore une fois un film qui raconte des enfants qui se retrouvent au milieu d'une vie et d'un monde
qui
les
n'ont
maltraite,
pas choisi.
Voilà.
Et ils sont broyés par le capitalisme quelque part. Mais ce qui est assez beau dans le Piala, c'est qu'il est très, il y a pas du tout de sentimentalisme, sauf qu'à la fin, le petit garçon qui a quitté cette famille envoie une lettre. Ouais. Et c'est d'une émotion folle. Ce qui est, en fait, il les a aimés, ces gens. Et c'est très beau. Mmh. Alors que vraiment, cet enfant, il est impénétrable pendant tout le film.
Oui.
Il n'y a jamais de psychologie chez cet enfant. Il y a jamais, enfin, Piala refuse la psychologie, le sentimentalisme et tout ça. Mais d'ailleurs, Piala, c'est marrant parce que les scènes, comment il est construit, j'ai l'impression qu'il rentre tout le temps. On est au milieu de l'action déjà. Il n'y a jamais d'exposition de ce qui va se passer. Il est tout le temps dingue dans l'action. Dans
comme
l'action,
si tu arrivais au milieu d'un documentaire.
C'est ça.
Et t'avais...
Et bam. Ouais.
Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir proposé ce thème-là et de m'avoir fait, moi, découvrir L'Enfance Nue et Caisse.
Avec plaisir.
Parce que c'est deux films, effectivement, que j'ai découverts avec délice. Voilà qui conclut parfaitement ce troisième et dernier thème de l'émission. Mais avant de vous quitter, bien sûr, on se retrouve pour les dernières petites recommandations de cette année 1969. Alors, bien sûr, voilà, comme à chaque fin d'émission, on vous passe un peu nos coups de cœur de cette année parce qu'on, bien sûr, on n'a pas eu l'occasion de parler de tout. Il y a beaucoup trop de films, mais on va pas vous laisser comme ça. Et on a tous les deux des petits films à conseiller comme ça. Alors, toi, Victor, est-ce que tu as un coup de cœur dans cette année 69 à nous conseiller?
Ouais, c'est un Éric Rohmer, c'est Manu chez Maud et c'est avec Trintignant. Donc, on a parlé.
Ça raconte quoi, Manu chez Maud?
Manu chez Maud, c'est un homme qui est donc interprété par Trintignant, qui travaille à Clermont-Ferrand et qui est très catholique, qui a une sorte de foi chrétienne comme ça et qui a un code moral très, très rigide. Et il a décidé de se marier avec une bonne catholique. Sauf qu'un ami à lui l'emmène une nuit pour un dîner chez cette fameuse Maud, qui est une femme très libre, divorcée, qui élève seule sa fille. Et il va être tenté. Donc, sa morale va être mise à l'épreuve. Et donc, c'est les contes moraux de Rohmer. C'est toujours un homme qui s'est posé une morale, en tout cas un code de conduite. Et c'est comment la vie, le hasard, le met à l'épreuve, en fait, quelque part. Et c'est un film, moi, je trouve très beau. Déjà, c'est en noir et blanc. C'est Noël, Clermont-Ferrand. C'est encore un paysage qu'on n'a pas beaucoup vu au cinéma, Clermont-Ferrand.
Oui, bien sûr.
Et il y a un huis clos qui dure 40 minutes quand même chez Maud. Et c'est surtout, moi, j'adore la musique, en fait, la langue, les dialogues. Chez Rohmer, il y a un côté langue du 18e siècle, comme ça, mais en même temps très parlé. Donc,
le cinéma de Rohmer est particulier hein, pour les gens qui ne le connaissent pas du tout. Comment tu pourrais le définir pour les auditeurs qui n'ont jamais vu un Rohmer? C'est vraiment particulier. Hein.
C'est des films d'atmosphère, en fait.
C'est très parlé. Hein.
Oui, c'est très parlé.
Ça a l'air d'être théâtral un peu.
Ouais.
Même si ce mot est un peu.
Ça rend le film un peu hors d'âge, enfin, un côté vieillot. Mais moi, en fait, j'aime beaucoup ça. Et même Desplechin, ce film-là, le côté, y a beaucoup de philosophie. Mmh. Et c'est un homme qui est pris entre deux femmes. Et moi, j'ai revu il n'y a pas longtemps comment je me suis disputé ma vie sexuelle.
Ouais.
Et tout d'un coup, j'ai fait un lien assez simple entre ces deux films. Et la langue de Desplechin et la langue de Rohmer, c'est des langues, moi, j'ai l'impression que ça me rend intelligent. C'est des films où
ça t'élève.
Me remplit. Et j'adore ça, cette musique. Même si je serais incapable d'écrire ces dialogues.
Bon, voilà, si vous voulez effectivement être une atmosphère, si vous voulez vous élever avec le cinéma, Manu chez Maud d'Éric Rohmer. Et le coup de cœur de Victor Samakari pour cette année 69. Alors moi, pour ma petite recommandation, je vais choisir quelque chose que j'ai découvert pour préparer l'émission, que je devais voir depuis des années, qui m'a été conseillé moult fois, et qui est Que la bête meurt de Claude Chabrol avec Jean-Yann, Michel Duchossois et Caroline Cellier. Alors Que la bête meurt, Victor, je vois qu'il fait « mais bien sûr !» qui raconte effectivement l'histoire d'un père qui décide de retrouver l'homme qui a écrasé son fils en voiture et bien sûr de se venger. Donc c'est un thriller, c'est un film de vengeance qui va effectivement devenir, qui est un film d'enquête au début et qui va devenir effectivement un film de sorte de revenge movie. Mais comme on est chez Chabrol, bien sûr, c'est aussi et surtout une étude sociale et un film de classe sociale particulièrement, puisqu'il y a ce dialogue. Enfin, c'est deux milieux qui discutent, hein, ce milieu très bourgeois et ce milieu plus popu. Et bien sûr, le milieu bourgeois en prend pour son grade. Et Chabrol prend un délice, on va dire, à décortiquer ce milieu bourgeois. Alors Jean-Yann est phénoménal. Jean-Yann est un ogre dans ce film-là. Et quelqu'un, en plus, c'est un personnage assez,
très flippant,
assez puant, assez négatif, assez horrible. Et il bouffe littéralement toutes les scènes dans lesquelles il est. Et même quand il n'est pas dans la scène, il est cette aura fantomatique au-dessus de tout le film, puisqu'effectivement, Michel Duchossois va le chercher tout le film. Et même quand on ne le voit pas, il est déjà là. Il est déjà cet ogre-là à bouffer tout le film. Et c'est pas étonnant que Bong Joon-ho, par exemple, quand il fait Parasite, ou même dans un peu tous ses films, s'inspire beaucoup de Chabrol, puisque ce côté plaisant de décortiquer le milieu bourgeois et de voir ces failles-là, et il y a dans La Queue de la Bête Meurt, il y a cette scène de repas qui est insoutenable. Il arrive, tout le monde est très contenancé, très cadenassé, en train de manger avec
toutes les formes.
Et lui, il arrive et il bouscule tout, il se permet tout, personne ne dit rien. Bref, c'est glaçant et c'est brillant et je suis très et c'est vrai que je pense que j'ai vu là que La Bête Meurt, je pense que j'ai vu là mon film préféré de Chabrol. J'avais bien aimé La Cérémonie, mais je trouve que La Bête Meurt est d'une efficacité assez folle, et c'est ma petite recommandation de cette année 69. Voilà.
Et c'est marrant parce que moi j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Beau Papa.
Oui.
Et le beau papa en question, l'indication de jeu au comédien, c'était Jean-Yann en Que la Bête Meurt.
Ah bah formidable ça. Ah bah la boucle est bouclée, c'est formidable. Où est-ce qu'on peut le voir, beau papa? Est-ce qu'il est visible
sur Internet? Je peux l'envoyer sur demande.
Voilà, n'hésitez pas à envoyer un mail à Victor Saint-Macaré si vous voulez voir son court-métrage. Beau papa, nous voici arrivés à la fin de cette émission et j'aimerais à nouveau remercier mon invité Victor Saint-Macaré. Merci Victor.
C'était un plaisir.
Merci d'avoir partagé ton cinéma avec moi, avec nous. Je pense que les auditeurs ont adoré. Merci également aux partenaires de l'émission, le magazine cinématiseur et Tsugi Radio qui nous accueille ici dans son studio de la Villette à Paris. Remerciements tous particuliers à Antoine à la réalisation. Je rappelle enfin qu'Année Lumière a désormais son Tipeee. Vous pouvez soutenir l'émission, même modestement, et vous pouvez le faire sur tipeee.com/AnnéLumière. N'hésitez pas. Un dernier grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cet épisode et cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Année Lumière. Salut, salut !